Vous êtes dans la newsroom.
Bonjour, c'est Michel Troidec, je suis journaliste culture à Ouest France et voici Newsroom, le podcast des invités de la rédaction d'Ouest France. Aujourd'hui, on retrouve Yvan Cassard, qui est l'artisan du nouvel album posthume de Johnny Hallyday, un album intitulé simplement Johnny, album de 12 chansons, 12 reprises, 12 tubes, où la voix de Johnny Hallyday se voit habillée pour la plupart des chansons d'arrangements symphoniques et de chœur, ou encore pour 3 des chansons d'arrangements acoustiques et intimistes.
Derrière les barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort.
Bonjour Yvan Cassard.
Bonjour Michel.
On est ravis de vous avoir dans les locaux d'Ouest France, d'autant que vous êtes du coin.
Yvan. C'est ça. Là, j'ai l'impression que c'est le bonheur absolu. Je suis à Rennes, dans ma ville, je suis né ici. J'ai lu Ouest France toute ma vie. Il ne faut pas que je m'habitue trop, parce qu'après, plus dur va être la chute.
Bien, on est là pour parler du nouvel album de Johnny Hallyday. Mais d'abord, Johnny Hallyday, vous vous rappelez la première rencontre, votre première rencontre avec Johnny?
Ah, je m'en rappelle très très bien. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Je l'ai rencontré pour la première fois 2 jours avant le début des répétitions du Stade de France 98. C'était à Los Angeles, dans un hôtel et où il avait sa villa. Et voilà, je suis sorti quasiment de l'avion, le temps de poser mes affaires et je suis allé le voir. Enfin, on m'a amené à lui. Voilà. Et là, il m'a regardé, il m'a dit « Ah bon, c'est toi qui vas faire ça, mais je comprends pas. Bon, d'accord, on va essayer. Je t'emmène manger un sushi. » Voilà.
Ça a commencé comme ça.
Ça a commencé comme ça. Parce que je pense qu'il avait dit oui à ma candidature, mais on ne se connaissait pas. Il m'avait un peu pris à l'essai en se disant... il m'avait dit, bon, bah, il avait dû se dire, bon, on verra, on essaye, on verra. J'ai déjà mon équipe, j'avais choisi, parce que j'étais arrivé un peu tard sur le Stade de France. Donc les musiciens avaient été choisis et moi, j'arrivais pour driver tout le monde, commander et tout changer et je ne connaissais personne. Donc il a dû se dire, bah, on va l'essayer et puis après, on verra.
Alors justement, Johnny, c'est un rocker et on lui met, entre guillemets, dans les pattes quelqu'un de la musique classique. Mais c'était l'objectif, c'est ça?
Non, on m'a d'abord pris pour le fait qu'ils avaient confiance sur le fait que je puisse organiser un spectacle et l'idée est mener des musiciens. Il y avait un casting international, donc pas mal d'Américains. Donc je pense que ça a joué en ma faveur parce que je venais de finir un gros show avec Farmer où j'avais déjà une équipe de musiciens américains et dans une grosse production parce que c'est vraiment des spectacles assez à part. C'est une expertise un peu particulière. Donc ça avait dû les rassurer un peu et le directeur de production avait rejeté. Gabriel avait vraiment travaillé pour moi là-dessus, en rassurant un peu tout le monde. Mais voilà, mais donc après, il s'est dit, forcément, notre première rencontre, il s'est dit, j'avais pas l'âme d'un rocker, j'avais pas de Santiago, j'étais pas un sportif, ça se voit de tout de suite. Donc ça l'a sans doute un peu interpellé. Après, il savait que je connaissais, que j'adorais le rock, et que j'aimais la musique moderne et toute la pop, etc. Ça fait partie de moi. Mais disons que c'est moins une évidence. Mais j'avais un petit peu caché mon background classique quand même.
D'accord.
C'est petit à petit que je lui ai raconté tout ça.
Alors en même temps, ça lui a plu parce que c'est le début d'une aventure de 15 ans. 15 ans, beaucoup de concerts, des albums.
Oui, c'est vrai que ça a été un coup de foudre. Autant, je dis toujours, ça a été très difficile de l'apprivoiser parce qu'il faut gagner sa confiance et il était difficile. Et c'est normal, il était exigeant et puis il savait ce qu'il voulait. J'allais pas lui apprendre grand-chose. C'est bien normal. Mais une fois qu'on avait gagné sa confiance, c'est vrai qu'il a été d'une affection, d'une amitié, d'une fidélité avec moi qui sont exceptionnelles. Je ne peux que me réjouir de ça. Et puis notre relation s'est nourrie au fur et à mesure parce que j'ai aussi pris de la bouteille et de l'expertise, spectacle après spectacle, album. Donc, et puis je le connaissais de mieux en mieux. Donc mon métier, c'est un peu de dessiner le vêtement le plus adapté. J'ai l'impression d'être un artisan, de faire du sur-mesure. Donc plus vous connaissez votre modèle et plus vous êtes compétent, ou en tout cas plus vous êtes à l'image et vous arrivez à un résultat optimal. Donc c'est vrai que j'ai eu cette chance sur le temps de pouvoir varier les ambiances, les orchestrations, les humeurs, m'amuser avec sa voix magique, évidemment.
Alors justement, avec le recul, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné chez lui? Sa voix, justement?
La voix. L'homme était formidable. Le charisme, bien sûr, mais cette voix, l'ambitus vocal, c'est-à-dire entre le bas et le haut, la puissance et en même temps la délicatesse, le velours, la capacité aussi ce mélange magique entre une culture très américaine et quand même une vraie culture classique française. Donc c'est, voilà, de chanter aussi bien Elvis Presley que Jacques Brel, c'est pas donné à tout le monde. Et, mais voilà, donc c'est compréhension et, c'est, et ce, cette manière, aucun filtre, quoi, cette manière de transmettre sans aucune barrière. C'est-à-dire, ce qui était absolument prodigieux chez lui, c'est que voilà, tout passait, quoi. Il transmettait son émotion en lien direct, quoi. Il y avait aucune barrière. Et ça, c'était prodigieux. Quelqu'un qui s'engage autant dans la musique, qui vous donne tout ce qu'il est. Et je parle de ça comme l'interprète, la beauté de la voix, mais je l'ai tellement vu sur 15 ans de tournée. Épuisé, fatigué, parce qu'on enchaînait les concerts à faune et se faisant piquer avec une, voilà, prenant une injection de cortisone et chanter encore plus fort un quart d'heure après. Voilà, il n'y avait rien de calculé chez Johnny. Et ça, je pense que c'est pour ça que les gens l'ont tant aimé, et l'aiment toujours encore, et l'aimeront toujours. C'est cette merveille, cet engagement total. Et ça, pour nous, c'est une leçon de tous les jours.
Alors, Johnny est parti, une page s'est tournée.
Certes.
Et tout à coup, on vient vous reparler de Johnny Hallyday.
Oui, ça a été très, très bizarre. L'aventure de cet album a été vraiment particulière et j'ai mis très, très longtemps à dire oui et à accepter de faire cet album. Parce que pour moi, j'étais trop encore dans l'émotion et dans l'homme et je voyais pas ce que je pouvais faire. Malgré tout ce qu'on s'était dit, toutes les envies, tous les rendez-vous, parce qu'on ne peut pas tout faire avec ces agendas, ces tournées, les disques, il y a toujours trois projets d'avance. Voilà. Je savais qu'il y avait un bien fondé à cette histoire, parce que notre histoire, notre collaboration, mon histoire particulière à la Symphonique, nos discussions sur l'orchestre, sur la musique classique, sur le cinéma, les discussions acoustiques, tout ça, il y avait un bien fondé, mais au début, je ne pouvais pas. Et puis après, je me suis dit que j'ai été séduit par la motivation et les idées de l'équipe de Panthéon d'Universal, parce qu'ils voulaient faire quelque chose de beau. Ils avaient pris comme témoin mon aventure en 98, ce que j'avais fait avec orchestre. Et je voyais que dans leur tête, ça devait être quelque chose de très artistique, de pur, et qu'ils étaient prêts à me suivre. Donc petit à petit, je leur ai demandé du temps, j'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que c'est finalement le moment de faire ce dont on avait parlé ensemble et d'aller au bout de cette histoire avec toutes ces chansons symphoniques qui étaient des petits puzzles dans les concerts à la fin ou au milieu, mais qui n'étaient jamais un tout, et de pousser vraiment la performance avec le bonheur de l'orchestre en studio et qui me permettait une expression beaucoup plus développée, un raffinement, d'aller au bout de mes idées et d'aller au bout de ce qu'on pensait et d'être à l'égal des standards qu'il écoutait, qu'il aimait toute la journée quand il était dans son cinéma privé à écouter des films et qui ressortait et qui m'appelait et qui me disait mais c'est dingue, t'as vu ça, c'est voilà, que je me rappelle par exemple de Gladiator, le jour où il a vu Gladiator au cinéma, je pense qu'il m'en a fait pendant 3 jours, il m'a parlé que de ça. Donc il y avait cette idée et aussi ces sensations que moi j'ai ressenties pendant toutes ces années, quand on a fait l'album de blues. D'aller au cœur de sa voix, c'est-à-dire donner à son public aussi bien, rendre cet hommage à la voix épique, la voix d'opéra, ce que je dis souvent. C'est pour moi, il a cette dimension opératique dans le personnage et dans la voix. Et ça, je voulais absolument que ça soit retranscrit à sa juste valeur avec le bonheur du studio à tout niveau. La perfection sonore est dans l'orchestre et lui, le travail sur le son. Et puis, tous ces moments que j'ai vécu d'intimité quand je suis au piano ou qu'on était avec juste une guitare en studio et qu'il vous chante comme ça et que vous l'entendez juste brut de décoffrage, comme ça, qu'il est là, juste près de votre oreille, qu'il n'y a aucune transition entre sa voix, entre la magie de son timbre. Et ça, je voulais qu'on retrouve vraiment ça et je voulais que son public, je voulais offrir ça, ce bonheur que moi j'ai eu, en toute gourmandise et en toute simplicité, le donner aux gens, qu'ils ressentent comme moi je l'ai ressenti, parce que quand on est en disque, où il y a la scène et il y a tout le réverb de la pièce, etc., il est toujours un peu au loin, ou en studio, selon les époques et les modes, on a beaucoup de réverb, et là, il n'était pas question de s'embarrasser avec tout ça. Je voulais qu'on ait la voix.
Très concrètement, Yvan, on vous demande donc de réécouter Johnny Hallyday, de choisir des voix et de réorchestrer de faire de nouveaux arrangements sur les voix avec un orchestre symphonique, une chorale ou tout simplement un piano, des guitares acoustiques.
Voilà, on me demande ça et je dis non. Et après, je dis oui parce que je me dis, on est dans quelque chose, dans un hommage. Et je reprends tout mon travail, toutes ces pistes que j'ai faites avec lui, tout le travail sur scène, et je dépouille, je garde la voix et je lui mets les crins qu'il mérite. Parce que quand on est sur scène, il y a un piano, c'est un synthé, voilà. Et là, j'ai un vrai piano, un sublime orchestre, des sublimes chœurs. On va au bout du bout du bout du process, ce qu'on n'a jamais eu le temps malheureusement de faire. Et là, on y va et tous ces arrangements, je les réécris, mais je les réécris dans la tradition et dans l'héritage de ce qu'il a entendu. En aucun cas, il n'aurait pu se retourner en me disant « Mais Yvan, tous les jours, je pensais à ça, mais qu'est-ce que tu as fait là ?» Je ne comprends pas, c'est quoi. Ça, ou que ce soit les choses orchestrales ou les choses purement acoustiques, on en avait parlé, on les avait essayées, on avait joué ensemble. Les versions sont des versions que j'ai vécues avec lui. Donc voilà, ça, c'était primordial. Et après, on a beaucoup travaillé sur les voix pour trouver les plus belles versions, magnifier les plus belles versions.
Yvan, je voudrais qu'on prenne deux exemples. Alors, un premier exemple, Requiem pour un fou. Alors, oui. Qu'est-ce que vous avez voulu faire sur cette chanson extrêmement connue de Johnny Hallyday ?
Pour moi, cette chanson, c'est le symbole même de l'emphase, de l'expressionnisme, de l'opéra, de ce qu'est Johnny Hallyday. On est au climax voilà, de l'expression, de la puissance vocale et du rapport charnel qu'il pouvait avoir avec son public. Donc pour moi, c'est un mini-opéra. C'est pour ça que j'ai fait une minute trente d'introduction avec les chœurs. Et par exemple, cette chanson, je l'avais déjà orchestrée pour le Stade de France en 98, mais il l'a chantée en duo avec Lara Fabian, donc personne ne l'a jamais entendue entièrement chantée du début à la fin par lui, dans une tonalité de do mineur, un peu plus haute. Et je trouvais que ça vraiment dommage. Et justement, en live, on ne pouvait pas offrir cette qualité, par exemple, de chœur qui est sidérante. J'ai eu la chance de travailler avec un chœur anglais qui est vraiment exceptionnel, qui fait toutes les grandes BO depuis des années et des années, et qui fait de la musique médiévale, qui fait de l'opéra. Voilà, et du coup, d'avoir ces sublimes voix, c'est un cadeau. Vous voyez, je peux même vous le dire maintenant, quand j'étais en enregistrement à Londres, quand on a fait cette chanson, c'est pas moi qui étais... Je leur ai laissé leur chef de chœur parce que moi j'ai dirigé l'orchestre mais je voulais pas, et donc j'étais comme un enfant et j'étais avec mon iPhone à les filmer dans la pièce, être près d'eux pour entendre le son réel, parce que ça donnait dans la pièce, parce que Air Studio c'est une église magnifique qui s'est transformée en studio d'enregistrement. Et donc d'avoir cet orchestre multiplié, parce que j'ai deux prises d'orchestre, donc 140 musiciens, plus les chœurs en studio, plus des percussions. Là, c'est un mini-opéra. Et donc, c'était chouette de pouvoir proposer enfin cette version. Ça fait 20 ans que j'attends de faire cette version. Et on en avait parlé, mais il faut le temps, il faut le projet. C'est comme ça.
D'accord. Deuxième exemple qui n'a rien à voir, Marie.
Marie, effectivement. Alors Marie, c'était un petit cadeau parce qu'on est parti de voix live et sur quelques chansons, j'ai eu quand Universal m'a envoyé toutes les voix, enfin tout le matériel, tout ce qu'ils avaient. J'ai découvert qu'il y avait sur Marie des prises alternatives. Quand on fait un disque, on enregistre, après on doit produire et forcément il y a une version qui sort. Mais quand Johnny est venu chanter en studio pour Marie, il est arrivé, il a chanté plusieurs fois, avec des intentions différentes. Et comme c'est un grand chanteur, évidemment, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas un couplet formidablement chanté, et c'est tout. Parce que je dirais même, c'est même le drame des grands chanteurs. Et je pense que pour avoir eu la chance de travailler dans des domaines très différents avec des interprètes exceptionnels, souvent vous remarquez que les interprètes exceptionnels, ils sont toujours encore mieux en live qu'en studio, parce qu'en studio se pose le problème de l'intention et de fixer et de graver. Alors, donc, est-ce que je fais ça ? Est-ce que je fais ça ? Et du coup, c'est un stress. C'est quand même un comble de se dire que les plus grands chanteurs sont les plus stressés en studio. Parce que les chanteurs un peu moins bons, ils se disent bah, « c'est génial, le studio, je vais pouvoir avoir amélioré tout ça, on va faire des comptes ». Un bon chanteur, j'ai connu ça avec Nougaro, c'est typique, ils se disent « oh là là, ça va être cette version, mais pourquoi ça ? Mais je le ferai bien comme ça, et pourquoi pas comme ça ?» Donc quand j'ai découvert les quelques pistes de Marie qui avaient été laissées de côté, parce qu'il fallait bien faire un choix pour l'album, j'ai découvert deux, trois pistes prodigieuses, dont deux qui étaient très chantées en douceur et qui correspondaient parfaitement à ce que j'avais moi dans la tête, c'est-à-dire redonner au public Marie, Johnny Hallyday qui chante Marie comme ça, sans phare, directement, qui sort de l'enceinte, si j'ose dire. Et donc, du coup, il y avait une prise qui était beaucoup plus intime, beaucoup plus simple, et je l'ai trouvée super belle. Je me suis dit, mais là, c'est un cadeau du ciel. Et donc, du coup, ça allait dans ce sens, et j'ai fait un arrangement extrêmement minimaliste autour de deux guitares, et puis juste un petit peu de cordes au milieu, mais vraiment, on est vraiment dans une épure, et surtout, voilà, avec un traitement, voilà, pour offrir au public ce que moi, j'avais toujours ressenti, que j'avais dans mon casque ou dans mes enceintes quand je faisais du studio, c'est-à-dire Johnny à l'état comme ça, en toute pureté, sans artifice.
Tout à l'heure, il y a une vingtaine de lecteurs de West France, fans de Johnny, qui ont écouté l'album en exclusivité. Vous étiez là, ils vous ont fait des commentaires. Est-ce que vous êtes rassuré? Parce que j'imagine qu'il y a quand même un petit peu d'inquiétude.
Oui, c'était un gros stress. C'est sans doute pour ça que j'ai mis autant de temps à dire oui à faire cet album, parce que je voulais vraiment être à la hauteur. Enfin, j'essayais de me dire, il faut vraiment pas que je me loupe. Il faut qu'il soit content de ça, là où il est. Et le public, parce que moi, je suis comme le public. J'ai vécu deux décennies avec lui. C'était mon ami, mais c'est pareil. Il y a une relation naturelle. Donc, je voulais pas décevoir et je voulais pas qu'il soit déçu. Donc je commence à me détendre un peu, mais c'est vrai que ça a été quand même beaucoup de stress. Et là, j'ai été très tôt. D'ailleurs, vous avez vu, ils m'ont un peu cueilli, je veux dire, à la fin. Et ça m'a plu parce que je me rends compte que ce que moi, j'ai voulu transmettre, ça leur semble naturel parce qu'ils connaissent Johnny comme moi. Et du coup, ça m'a un peu rassuré. Je vais un peu mieux aujourd'hui. Merci, West France.
Voilà, donc il y a cet album de Johnny qui sort vendredi prochain, fin octobre. Et votre actualité ne s'arrête pas là, parce qu'il y a deux autres albums qui sortent en novembre. L'album de Nathalie Dessay qui chante Nougaro, oui. Et l'album de Roberto Alagna. Et vous êtes derrière ces deux albums, voilà, aux arrangements. Racontez-nous un.
Absolument. C'est-à-dire que c'est vrai que ça a été une période de 5 mois totalement folle et intense. Mais j'ai de la chance parce que je suis très très fier de ces 3 albums. Et alors voilà, moi ce que j'aime dans la musique, c'est je suis comme un enfant à l'âge que j'ai, parce que j'aime les styles différents. Je suis un passionné de voix, un amoureux absolu de la voix et des chanteurs. Et j'aime le fait de travailler avec des chanteurs très différents dans des univers totalement opposés. Claude Nougaro est un homme très important dans ma vie. J'ai eu la chance d'être son dernier collaborateur et j'ai vécu des choses vraiment très très fortes avec lui, fait beaucoup de chansons, enfin voilà, et pour moi reprendre Nougaro, c'est quasiment impossible, et à chaque fois que j'entends des choses, j'ai beaucoup de mal. Donc c'était une autre petite source de stress de faire ça avec Nathalie Dessay. C'est une grande chanteuse classique, mais là on va la découvrir. Je pense que c'est un album de surprise, vraiment je trouve que ce qu'elle a réussi à faire, c'est exceptionnel. On est vraiment dans l'opposé, c'est-à-dire on est dans le pianissimo, dans l'intimité absolue. Sa manière de chanter Claude, vraiment, c'est tout en retenue, elle caresse, enfin voilà, c'est pas du tout et du coup il n'y a pas de comparaison, on se dit pas mince, c'est pas Claude, c'est vraiment une proposition féminine très 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 différente. Et ça, je trouve ça vraiment formidable que enfin on découvre Claude avec un autre éclairage, et finalement dans cette épure on se rend compte à quel point les mots de Claude sont exceptionnels.
Nathalie Dessay sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches, et ça sort le 15 novembre. Et Roberto Alagna.
Bon, donc dans la série Les chanteurs qui chantent bien, Roberto, c'est aussi une grande histoire. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui. C'est le plus grand ténor de sa génération. J'ai eu la chance de le rencontrer. C'est une grande histoire de fidélité aussi. On se connaît depuis 15 ans. J'ai fait tous ses disques, et celui-là, vous voyez, nous on parlait tout à l'heure de Johnny Hallyday, je pense que Caruso pour Roberto, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le maître absolu, c'est son idole absolue. Caruso, c'est le ténor qui a tout inventé, le crossover, cette manière de chanter de l'opéra, mais aussi les chansons, de développer l'enregistrement. En 1905, il était déjà en train d'enregistrer, d'être malin, de trouver des solutions, de raccourcir les airs d'opéra pour que ça rentre avec la cire, il a tout, il a, c'est voilà, c'est le ténor moderne, et je comprends que Roberto soit aussi passionné que ça. Et là, on a fait quelque chose qui est très intéressant, parce qu'on est revenu sur ce répertoire, et, parce que Roberto, c'est un homme très ouvert. Il a commencé par la chanson, il a une culture absolument inouïe des chanteurs et de l'opéra, et donc on a voulu retrouver le parfum de Caruso. Donc j'ai même sur les airs d'opéra, j'ai un peu transformé les orchestrations pour faire comme à l'époque où on gonflait un peu les orchestres avec des cuivres et des clarinettes et des bois, parce que évidemment il fallait que ça soit puissant, parce que c'était un cornet qui enregistrait et pas du tout des micros, donc il fallait voilà. Donc c'était passionnant, et cet album, on en parle depuis 10 ans et on l'a enfin fait, et je vous le conseille, écoutez Caruso, juste cette version qui n'est pas une chanson qu'a enregistré Caruso lui-même, et Caruso, la chanson de Lucio Dalla qu'avait chanté, qui est devenue populaire grâce à Luciano Pavarotti. Et vraiment, je trouve ce qu'il fait là-dedans, et voilà, c'est un immense chanteur, et c'était une très, 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 très jolie expérience aussi.
Et ça sort le 8 novembre. Voilà. Merci Yvan d'être venu à Ouest France nous voir.
Trop heureux d'être ici à Rennes, chez moi. Merci.
Newsroom. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts de Ouest France.